Dans notre société moderne où en quelques clics on peut obtenir biens et services à n'importe quelle heure et parfois depuis l'autre bout du monde, y a-t-il encore une place pour le contentement ? Qu'est-ce que c'est et comment peut-on le mettre en œuvre sans pour autant renoncer à tout ? Les chrétiens peuvent-ils être des témoins par leur contentement justement ? On en parle aujourd'hui avec Yannick Imbert, doyen de la faculté de théologie Jean Calvin à Aix-en-Provence.
Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
Bonjour Yannick Imbert.
Bonjour Nina.
Vous êtes le doyen de la faculté de théologie Jean Calvin à Aix-en-Provence. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler donc du contentement et de la responsabilité du consommateur, thème que nous aborderons dans une seconde émission. Aujourd'hui donc, le contentement, alors surtout avec la rentrée, c'est un sujet d'actualité. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par le contentement ?
Alors c'est vrai qu'en début septembre, peut-être que pas mal de nos auditeurs ont déjà fait leur course de rentrée. Sinon pour les autres, on a du mal à aller dans les magasins en se demandant comment être contenté. Surtout si, allez disons-le, si vous avez des enfants qui vont à l'école, au collège ou au lycée, le contentement en rapport avec ses pairs peut être redoutable. Alors qu'est-ce qu'on entend par contentement ? Alors on pourrait se dire peut-être que le contentement c'est être heureux. Ce serait un petit peu simple, parce qu'on sait tous que pour être heureux avec nos possessions matérielles, c'est excessivement limité, on a toujours l'impression de ne pas en avoir assez. Est-ce qu'alors le contentement, c'est synonyme de satisfaction ? On pourrait en avoir l'impression là aussi. Être contenté, c'est finalement être satisfait. La question, c'est de savoir de quoi. Est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on a, satisfait de ce qu'on n'a pas ? En tout cas, on pourrait adopter dans un premier temps cette sorte de synonymie presque entre le contentement et la satisfaction.
Est-ce que c'est-à-dire que le contentement serait un peu une sobriété heureuse, une expression qu'on entend parfois dans le milieu chrétien ?
Sobriété heureuse, pourquoi pas ? Ça dépend un petit peu de la définition des termes. C'est peut-être pour ça que ça me laisse moi un petit peu satisfait, peu contenté justement. Parce que ça pose la question de savoir qu'est-ce que la sobriété. On est toujours sobre par rapport à un idéal. Quel est le critère de cette sobriété-là ? D'ailleurs, on peut poser la même question par rapport à ce fameux terme contentement. À partir de quand s'estime-t-on contenté ou satisfait ? Et je pense que finalement, la question, elle est bien là, au-delà de la définition des termes, c'est de savoir finalement à partir de quand on peut s'estimer satisfait et contenté. Tout le monde cherche le contentement, en fait. Même celui qui va consommer ou surconsommer cherche à être contenté. La question, c'est de savoir finalement comment est-ce qu'on arrive à mettre une échelle de valeur, peut-être, devant nous pour décider à partir de quel moment le contentement est pleinement là.
Alors nous sommes dans l'émission Comme une planète, donc on a tendance à aborder un peu les sujets sous l'angle de la consommation et de l'impact sur l'environnement. Mais comme le pape François nous invite à réfléchir à une écologie intégrale, le contentement se vit peut-être aussi donc dans la consommation de biens et de services, mais aussi dans un côté plus social, psychologique. Est-ce que être contenté humainement et être contenté dans sa consommation, c'est lié, selon vous ?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a un lien. Sinon, on aurait bien de la peine à expliquer pourquoi on est très souvent porté à être satisfait parce qu'on consomme. Donc, il y a forcément un lien entre les deux, entre le contentement et la consommation. Peut-être consommation au sens large, y compris consommer nos relations sociales. On est peut-être plus porté à l'amitié envers certaines personnes qu'envers d'autres. D'autres qu'on essaie peut-être d'éviter d'ailleurs, et on n'est pas très contenté quand on les voit. C'est aussi dans ce sens négatif-là. Il y a une relation entre les deux. Finalement, pour expliquer cette relation-là, entre contentement et satisfaction, on trouve parfois cette satisfaction dans notre consommation. Il faut bien voir que finalement, ce qui nous contente, ce qui nous satisfait, c'est toujours quelque chose à laquelle on donne un certain pouvoir de satisfaction. Quelle que soit cette chose-là, ça peut être une chose matérielle, ça peut être une relation, et ça peut être, bien sûr, d'une perspective chrétienne, Dieu lui-même. Et c'est ça qui explique pourquoi il peut y avoir à la fois peut-être une même relation entre consommation et satisfaction, ou consommation et contentement, dans une perspective chrétienne, mais aussi une perspective beaucoup plus large dans le monde. Ça fonctionne toujours un petit peu de la même manière. On est contenté ou satisfait parce qu'il nous semble essentiel à la vie humaine ou parce que par les choses qu'on pense pouvoir nous satisfaire pleinement. Or, pour la consommation, force est de constater que c'est jamais totalement cette satisfaction-là que de choses matérielles nous apportent.
Alors, je vous ramènerai sur l'aspect de la satisfaction à travers la consommation et le contentement. Mais déjà, est-ce qu'une consommation à outrance, est-ce que c'est le signe peut-être d'un manque autre part, voilà, dans notre société où on peut tout avoir en quelques clics, on voit le développement, enfin, c'est même plus une nouveauté, d'une consommation excessive, presque maladive. Est-ce que c'est le symptôme d'un manque autre part ?
Je pense qu'effectivement, la surconsommation, telle qu'on l'a définie, ou telle qu'on en parle beaucoup maintenant, peut cacher deux déséquilibres, pour schématiser un petit peu, bien sûr. La première, ça peut être tout d'abord une tentative d'être satisfait par les choses que nous consommons, les choses mêmes. Encore une fois, les choses matérielles, mais les relations aussi qu'on consomme. Et dans ce sens-là, c'est une fausse recherche de but et de contentement, puisque bien sûr, les choses qu'on consomme ne peuvent ni nous donner ce qu'elles pensent, ce qu'elles promettent ou ce qu'on attend d'elles. Il n'y a pas de satisfaction éternelle ou à long terme dans les choses qu'on consomme. Et certainement, elles ne sont pas essentielles à la vie humaine. Elles en font partie. Elles font bien une partie intégrante de notre vie. On ne peut pas ne pas consommer dans certains sens, mais elles ne sont pas la chose essentielle suffisante à notre vie. Mais la deuxième dérive, c'est aussi de consommer à tout prix et pas dans le sens de pouvoir vouloir accumuler, mais finalement en représentant, en manifestant un des vices, on pourrait dire en théologie, ou contre-vertus essentielles et qui en fait... Chez certains théologiens protestants du XVIIe, était vraiment le pendant négatif du contentement, c'est la convoitise. En fait, je désire ce que l'autre désire. Et donc, je consomme, pas parce que j'en ai besoin, mais parce que c'est une marque de statut social, peut-être, que d'avoir tel ou tel objet.
Est-ce que, Yannick Imbert, la recherche du contentement, est-ce que c'est-à-dire renoncer à tout ? Est-ce que c'est ou est-ce que ce ne serait que rechercher le nécessaire vital et puis je vous ramènerai sur l'impact des autres et ce que les autres veulent.
Alors je pense pas que ce soit nécessairement se contenter du nécessaire vital. Alors déjà, qu'est-ce que le nécessaire vital ?
Déjà.
Selon les degrés de vie et selon les âges, avoir une ou deux voitures, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est vital ? Oui, non, on pourrait poser la question. Je ne pense pas que le contentement est premièrement défini par ce que nous avons ou ce que l'on refusons d'avoir. Et là, je crois que vraiment, ces théologiens du XVIIe tenaient quelque chose de vraiment vital lorsqu'ils opposaient contentement et convoitise. Le contentement, c'est premièrement lorsque, dans ma vie personnelle, avec les décisions que je fais, que je prends, dans ma consommation personnelle, je ne regarde pas premièrement à ce que l'autre a ou à ce que la société me dit avoir besoin, mais à ce dont j'ai vraiment besoin. Mais ce dont j'ai besoin peut être relatif à plein de choses. Par exemple, je suis moi convaincu qu'on a besoin d'art et de beauté dans notre vie. Est-ce que c'est strictement nécessaire à la vie humaine ? Je serais prêt à argumenter que oui. Et donc peut-être d'aller faire une sortie au musée peut faire partie de cette consommation légitime. La question, c'est celle de la convoitise, du coup. Et je pense que c'est une question cruciale, notamment... en intégrant une autre notion qui est celle de l'imitation, on a toujours tendance à agir par imitation des autres. Et je crois que là, la Bible nous ramène plus vers une responsabilité personnelle qui est de voir ce que, dans la sagesse qui est la mienne, ce dont j'ai vraiment besoin. Et ça peut être des choses différentes, à des échelles différentes, selon d'ailleurs les périodes de ma vie. Et cette imitation de Dieu, du coup, imitation de Christ, va me permettre de ne pas consommer en voulant imiter les autres ou imiter les critères de la société. Je ne veux pas dire que je consommerai que le minimum pour vivre, de l'eau et du pain frais, mais que la manière dont je vais prendre mes décisions est guidée par autre chose que certaines normes plus ou moins acceptées.
Alors quelles sont un peu ces normes, si on pouvait les nommer ou donner quelques clés pour les reconnaître quand j'ai envie d'acheter quelque chose ou j'ai envie de payer pour un service quel qu'il soit ? Quelles sont les clés pour reconnaître que je suis dans l'imitation, peut-être, de ce que les autres font ou pour éviter une mise de côté sociale.
Alors, c'est une question très difficile, en fait, parce qu'il me semble que la Bible, très souvent, ne nous propose pas de liste aussi simple que ce qu'on espérait. Vous savez, dans notre vie chrétienne, dans la vie humaine même, on espère toujours des listes assez claires pour savoir quoi faire. Si tu fais A, B, C, alors tu es tranquille. La Bible nous propose beaucoup plus un état d'esprit ou une transformation intérieure qui est celle de la sagesse, et là, du coup, du contentement, qui est du coup beaucoup plus difficile à définir précisément. Mais c'est premièrement cette acceptation d'une responsabilité personnelle que j'ai en face de ma propre vie. Alors, si on voulait être, si vous me poussiez un petit peu à être un petit peu plus pratique, quoique je n'ai pas forcément la réputation de l'être beaucoup, mais une des premières choses, c'est peut-être de regarder à mes propres motivations. Pourquoi est-ce que réellement je veux faire ceci, cela, consommer tel ou tel service ou acheter tel produit? Et parfois, le désir par imitation des autres sera clair. Parce que c'est le produit en vogue, c'est le truc qui vient de sortir, c'est le dernier smartphone en date. Et peut-être que là, je vais relativiser en fait mon besoin. Peut-être aussi qu'une deuxième manière pratique, c'est de regarder aux besoins des autres. Au lieu de voir mon besoin à moi, de voir le besoin des autres, qui parfois, alors ne nous empêchera pas de toujours consommer ce qu'on aimerait pour, entre guillemets, se faire plaisir. C'est acceptable, c'est légitime. Mais parfois, nous fera choisir un don généreux pour servir l'autre, plutôt que pour se servir soi-même. Et cette notion de générosité intervient assez régulièrement, notamment dans les lettres pauliniennes, et je pense que c'est significatif dans ce sens-là.
Yannick Hammer, on se retrouve dans quelques minutes. On va écouter tout de suite « I can get no satisfaction » des Rolling Stones.
I'm trying.
Commune Planète, Nina Pavant, Dialogue RCF.
Nous sommes toujours en compagnie de Yannick Imbert, doyen de la faculté de théologie Jean Calvin à Aix-en-Provence, et nous parlons de contentement. Yannick Imbert, nous parlions juste avant la pause de la convoitise, de ce que les autres ont et comment cela influence ma propre consommation. Est-ce que l'immédiateté que nous permet notamment Internet dans notre consommation serait un piège qui nous empêche de prendre le temps de réfléchir à nos motivations dans notre consommation justement ?
Oui, je pense que la gratification immédiate, cette satisfaction immédiate des choses qu'on consomme, joue un grand rôle dans la manière dont on va se projeter familialement, personnellement et familialement, dans cette société de consommation qui est la nôtre. Il y a plusieurs choses qui aggravent cela, bien sûr. Le fait que maintenant, pour beaucoup de personnes, surtout parmi les plus jeunes, la consommation ou l'appel à la consommation se fait beaucoup par l'intermédiaire des réseaux sociaux qui, par définition, sont des instruments d'immédiateté, sans critiquer plus que ça les réseaux sociaux, mais c'est une des bases des réseaux sociaux, avec ces publicités intempestives qui, en fait, se nourrissent de ce qu'on regarde. Donc, si vous prenez une première publicité, vous en allez en avoir d'autres dans le même style, et forcément, à un moment donné, si la première pub vous plaît pas, la deuxième ou la troisième, l'algorithme des réseaux sociaux va tomber sur le produit que vous allez désirer. On pourrait dire aussi que le phénomène des soldes est une gratification immédiate ou appelle une satisfaction immédiate parce que si c'est pas maintenant que vous prenez l'objet que vous désirez un petit peu quand même et qui est à moins 30%, faudra attendre ou vous l'aurez peut-être jamais. De la même manière, pour prendre un troisième exemple, le crédit à la consommation peut aussi faire miroiter une consommation au-delà de nos moyens. Et donc, nous encourage, en fait, à peut-être posséder quelque chose que les autres ont, donc une sorte de montée dans la hiérarchie sociale de la consommation, alors que clairement, j'en ai pas les moyens, que peut-être même je mets la santé financière de ma famille ou de mes proches en jeu. Et il y a ce phénomène de satisfaction immédiate qui exacerbe peut-être cette convoitise qu'on porte tous en nous, réalisons-le. On désire tout ce que les gens ont, ce que les autres ont, parce qu'on n'est jamais satisfait de nous-mêmes. C'est pour ça que souvent, on parle du contentement comme étant l'une des plus difficiles vertus chrétiennes à pratiquer. Parce que c'est ne pas se concentrer sur les autres.
Et alors justement, je vous la pose maintenant, la question, en tant que chrétien, sur quels outils on peut s'appuyer, sur quelle doctrine on peut s'appuyer, quelles sont nos armes pour chercher ce contentement justement, et peut-être être aussi des témoins à travers notre consommation, est-ce que c'est possible ?
Alors je pense que c'est possible effectivement. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent faire de la consommation, de la manière dont le chrétien va approcher la consommation, quelque chose de différent. Encore une fois, il ne s'agit pas de ne pas consommer. C'est impossible de ne pas consommer. Arrêter de vivre. Impossible. Que faire ? Je pense que la première chose à faire, c'est de nous replacer dans cette perspective chrétienne sur le contentement, qui est de trouver son contentement en ce que Dieu lui-même donne ou retire même. Je peux bénéficier de quelque chose à un moment donné de ma vie que je n'aurai plus après. Le contentement est donc trouvé, c'était la définition qu'on avait prise au début de l'émission, qu'est-ce qui est essentiel à la vie, qu'est-ce qui peut nous procurer les biens. Dans une perspective chrétienne, Dieu seul. Et donc de se replacer sous ce regard divin, qui est un petit peu ce que Jésus rappelle à ses disciples, quand il leur dit « ne vous souciez pas du lendemain, ne soyez pas anxieux du lendemain ». Ne pas être anxieux du lendemain, ça ne veut pas dire ne rien consommer, ça veut dire ne pas être inquiet du lendemain. Et c'est-à-dire de pouvoir accepter ce que nous avons maintenant aujourd'hui comme un don de Dieu, y compris d'accepter que Dieu puisse nous le retirer demain. Et c'est bien pour cela que c'est l'une des choses les plus difficiles. C'est ce contentement trouvé en la présence de Dieu. Après, ça veut dire quoi aussi ? Je pense que c'est consommer, oui, mais avec mesure, maîtrise de soi, pouvoir me détacher du bien que j'ai. Je peux légitimement acheter quelque chose et pouvoir m'en séparer après. Et ça, c'est une preuve de vertu chrétienne, je pense. Et enfin, peut-être que l'une des manifestations les plus importantes, pour moi en tout cas, c'est cette capacité à la générosité. Oui, je peux décider de consommer quelque chose, mais je peux aussi décider de m'en séparer, maîtrise de soi, contentement, afin de pouvoir aider les autres. Ça ne veut pas forcément dire que tout ce que je voudrais acheter, je ne vais pas le faire pour aider les autres. Il y a une sagesse, il y a un équilibre, hein, il y a différentes attitudes chrétiennes, et en même temps, une vie chrétienne qui ne serait jamais généreuse démontrerait, à mon sens, une trop grande emprise de cette société de consommation.
Alors, je vous emmène sur un sujet, pour les minutes qui nous restent, un peu géopolitique, avec la crise économique et notamment le plan de relance qui a été mis en place au niveau national, mais aussi au niveau européen. On parle d'un endettement sur plus de 60 ans, donc c'est massif. Et on parle beaucoup de faire repartir l'économie, notamment grâce à la consommation. On a beaucoup parlé de l'épargne que les Français auraient mis de côté. Il faut absolument qu'ils consomment. Donc c'est toute une théorie de l'économie, presque du ruissellement par la consommation, on fait repartir l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez et quel message les églises peuvent porter par rapport à cet appel à consommer, justement?
Alors, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de problème de principe avec un discours sur la relance de la consommation. Les réalités économiques sont telles qu'effectivement, sans relance économique, le pays et même l'économie mondiale n'irait pas très loin. Toutes les choses sont tellement liées qu'il est difficile de rejeter tout appel à cette relance économique. La question, peut-être, c'est de nous poser, c'est de savoir ce que nous en entendons. Et peut-être que l'un des problèmes que j'aurais personnellement avec le message trop fort de reprise de relance économique, c'est finalement l'espoir trop grand que nous plaçons à la fois dans les choses que nous consommons et dans le système financier qui est le nôtre. Il y a une relativisation de tout cela, parce que précisément, rien de cela ne peut nous contenter nous-mêmes. Et en fait, si ça ne me contente pas moi-même en tant qu'être humain, ça ne pourra jamais contenter réellement une société humaine. Et la société elle-même ne peut pas être contentée ou satisfaite simplement par sa consommation. L'espoir n'est pas là. Et peut-être que le premier message de l'Église, dans ce sens-là, serait de bien rappeler que finalement, s'il y a légitimité à une consommation modérée, responsable, avec sagesse, contentement, s'il y a une légitimité à un discours sur la relance économique, il y a aussi une très grande relativisation à en faire.
Il nous reste encore quelques minutes, donc je vais vous poser une question. La question bonus que j'avais prévue au cas où, mais j'avais peur qu'on n'ait pas le temps. Notre contentement, je vous ramène sur la consommation, par rapport aux nouvelles technologies, notamment l'impact environnemental au final des nouvelles technologies où tout est numérisé, et donc on ne voit pas l'impact de cette consommation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je pense que la consommation des technologies, surtout le high-tech, les nouvelles technologies, est probablement l'une des choses les plus difficiles à gérer, parce que c'est justement ce que nous désirons le plus. Parmi tous les produits attractifs, le high-tech figure en tête de liste. Ce serait facile d'ailleurs de s'endetter pour pouvoir acheter les derniers objets high-tech. Qui ont de plus, il est vrai, un très grand impact environnemental quant à leur production, y compris d'ailleurs pour leur recyclage. Et peut-être que là, la première chose à voir, c'est en fait d'avoir conscience du type de consommation que nous faisons. Avoir conscience des enjeux qui se passent et qui entourent en fait notre consommation. En amont, mais aussi après, c'est-à-dire une fois que le produit qu'on a acheté est en fin de vie, si je peux dire ainsi, son recyclage. Et d'avoir conscience de ce qui se passe dans le monde, produire, consommer, recycler, même lorsqu'on recycle, si même on recycle, est peut-être la première étape vers une prise de conscience de cet enjeu, on pourrait dire enjeu environnemental de notre consommation. Et peut-être que la prise de conscience est la première étape nécessaire à encourager, d'autant plus pour les chrétiens qui affirment, en tout cas, selon c'est le psaume 24, hein, qui dit que la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Et peut-être que ça devrait, cela même, nous encourager à une meilleure prise de conscience de ce que cela veut dire que de consommer, et peut-être du coup de recycler, dans le monde que Dieu a créé.
Il y a aussi dans les nouvelles technologies, donc là vous parlez de l'aspect matériel, donc par exemple je vais acheter un téléphone, je vais m'en servir et après qu'est-ce que j'en fais, comment je le recycle, mais il y a aussi par exemple le point environnemental d'un email que je n'ouvre jamais, qui reste dans ma boîte de réception, toutes les séries que je consomme par exemple si je regarde en streaming, c'est un poids écologique au final, voire même c'est un temps que je passe peut-être... sur un écran interposé, donc on parlait même des relations que l'on consomme. Mmh. Donc il y a aussi tout cet aspect-là dans la high-tech.
Il y a effectivement dans la high-tech tout l'aspect dématérialisé, qu'on tend à sous-estimer. Du coup, peut-être que ma réponse témoigne aussi qu'on a facilement tendance à le sous-estimer, et qui peut-être, du coup, non seulement un impact environnemental, mais en fait a peut-être... d'autant plus un impact social. Et c'est peut-être justement à voir dans les mois qui vont venir, alors qu'on débute un nouvel automne, voir ce que les derniers 18 mois pandémiques vont produire sur les relations sociales et comment on va... le terme n'est pas le meilleur, mais puisqu'on est dans ce terme-là, terminologie-là aujourd'hui, consommer ou développer mes relations sociales. Est-ce que je vais me satisfaire, être contenté de relations sociales qui vont être dématérialisées, y compris parler avec les fameuses vidéoconférences, d'accord ? Ou est-ce que je vais faire l'effort, entre guillemets, de mieux développer, de mieux approfondir, consommer ces relations sociales-là ? Et je pense que l'enjeu va être majeur dans les mois à venir.
Merci Yannick Imbert d'être venu dans Commune Planète. On vous retrouve dans une prochaine émission pour aborder la responsabilité du consommateur après le contentement. Donc, c'est une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur rcf.fr et sur toutes vos plateformes favorites de podcast. À la semaine prochaine.